la cavale calage.
Bonsoir tout le monde. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver, meilleurs vœux, parce que je ne vous l'ai pas encore souhaité pour cette année 2024. Donc, on se retrouve pour une nouvelle émission. On va débuter l'année avec une émission spéciale éducation, instruction, citoyenneté, inclusion. Alors, notre invitée pour cette nouvelle émission, c'est Lucile Jourdan. Lucile, es-tu parmi nous ?
Oui, je suis là.
Alors, Lucile, on y va. Donc, comme je l'ai expliqué, Lucile, bah déjà, est-ce que tu peux brièvement te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ?
Oui, bah, moi je suis déjà passée quand même sur Radio Calade. Alors moi je m'appelle Lucile Jourdan-Cluzenard, je suis musicothérapeute clinicienne, psychopédagogue et autrice de différents ouvrages autour de l'apprentissage de la musique pour les plus petits. Et j'ai développé aussi les coffrets Musica Racconto à la sortie du confinement, voilà, en 2021.
Exact, exact. Tu étais venue dans une émission pour nous parler de la musicothérapie.
Oui, 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 effectivement, auprès des femmes enceintes. Et de comment est-ce que la musicothérapie peut aider à faciliter l'accouchement, à faire en sorte qu'elle soit moins stressée, puis surtout pour le suivi du postpartum, essayer d'éviter tout ce qui est dépression, burn-out, voilà, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est pas obligatoire, mais on peut les rencontrer, donc mon métier, c'est aussi les aider.
De mémoire, tu nous avais aussi indiqué que, et tu nous avais expliqué la chose, que le premier sens que développait l'humain, à peine était-il dans le ventre de la maman, c'est l'ouïe. Donc, je rebondis pour cette émission. Donc, on l'a dit, le thème de notre émission, nous allons discuter ensemble de éducation, instruction, citoyenneté, inclusion aussi. Et justement, pour démarrer l'émission, je voudrais donner quelques notions, quelques définitions, en fait, redéfinir les mots. Tu peux compléter ces définitions, hein, bien sûr, Lucile.
D'accord.
Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que l'instruction. Alors, l'instruction, c'est l'acquisition de connaissances grâce à l'enseignement.
Exactement.
Définition de l'éducation, c'est le développement des capacités, des êtres pour être soi-même en étant avec les autres, participer à la vie sociale, intérioriser les cultures communes. Est-ce que cette définition te plaît, Lucile ?
Complètement, complètement.
Top. Et enfin, on va définir qu'est-ce que la citoyenneté ? Eh bien, la citoyenneté, c'est l'ensemble des droits et des devoirs réciproques.
Là, tout à fait, je n'ai rien d'autre à ajouter.
Bah écoute, alors, on va donner quelques petites infos aussi, parce que l'actualité, l'enseignement, les blouses, parlons-en de ces blouses. Donc
oui.
La proposition est pour, il me semble, 2027, tous les étudiants en blouses.
C'est ça.
Et là, actuellement, 5 lycées ont été désignés pour être des lycées pilotes pour que les élèves du lycée, hein, on est sur des lycées, portent la blouse. On en a un dans le Puy-de-Dôme, le lycée Saint-Écle. On en a un en Loire-Atlantique, c'est le lycée Jacques Cassan. Il me semble. Donc, ça, c'est pour le. Voilà, je crois qu'il y en a 5 en France pour le moment désignés. Hein? Une petite impression sur cette... et pourquoi pas, qu'est-ce que tu en penses ?
Le sujet de la blouse, il revient quand même assez régulièrement, je trouve, en France. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais au collège, c'était quelque chose qui était aussi revenu, notamment parce qu'il y avait un élève, notamment, qui avait des difficultés à ce sujet-là. Mmh. C'était des problèmes familiaux, pas forcément des problèmes économiques, mais vraiment des problèmes de famille, qui faisaient que, voilà, il n'arrivait pas forcément toujours habillé correctement à l'école. Et c'était posé la question de la blouse, effectivement. Et moi, j'avais pas été particulièrement choquée par ça, parce qu'en fait, je me disais que ne serait-ce que lui, pour se sentir aussi inclus et ne pas avoir été brimé d'une certaine manière par ses autres camarades qui ne connaissaient pas forcément son histoire, ça aurait pu l'aider en fait à ce moment-là. Bon, ça n'a pas été fait, mais du coup, que ça revienne là au devant, pourquoi pas ? Après, qu'est-ce qui est dit derrière, c'est toujours un petit peu la chose tendancieuse, quoi.
Ce que nous savons actuellement, c'est que les blouses sont made in France, fabriquées en France. Hein, ça n'aurait pas forcément été très pédagogique, très judicieux de porter des blouses made in China. On est d'accord oui. là-dessus.
On est d'accord.
Bon, pour dans la pyramide de Maslow, il me semble que l'un des besoins primaires, c'est le besoin d'appartenance. Et ouais. est-ce que le fait de porter une blouse ne permet si ça peut encourager les élèves à se sentir plus élève et tourner peut-être nourrir ce besoin d'appartenance, c'est peut-être une bonne chose.
Alors, est-ce que c'est le besoin d'appartenance ou est-ce que du coup c'est aussi ne pas développer peut-être d'autres capacités et d'autres se distinguer autrement que par les vêtements?
Ah, ça c'est une excellente réflexion, excellente réflexion. Je rebondis sur une conversation qu'il me semble que nous avons eue par téléphone il y a quelque temps, toi et moi, où on parlait de l'enfant naît-il citoyen ou devient-on citoyen ? Et tu m'avais, réexplique-moi la chose, il me semble que tu m'avais parlé de comment est-ce qu'un enfant se sent citoyen, c'était je crois au Canada.
Alors, je sais plus, c'est sûr que tu avais parlé de ça, du Canada. La manière dont il se sent citoyen.
Oui.
Déjà, c'est l'appartenance aussi à un groupe. Je pense qu'il faut pas perdre de vue les interactions et les liens interpersonnels, en fait.
Tout à fait. Façon.
Un être qui arrive, il a déjà créé du lien déjà avec ses parents, et par la suite, il va créer du lien avec la société qui l'entoure.
Oui.
Avec tous les codes sociaux et les principes moraux et les différentes valeurs qui encadrent une société. Oui. pour que ça puisse au mieux fonctionner. Le fait qu'il puisse se sentir citoyen, c'est célébrer les différentes fêtes aussi avec les autres, c'est participer d'une certaine manière aussi à la société. Mais pour ça, il faut être dans un environnement aussi propice
oui.
qui nous permette de développer aussi ces compétences qui sont avant tout des compétences humaines, en fait. J'ai
tout
envie
à
de
fait.
Dire plus que citoyennes. La citoyenneté, finalement, c'est l'appartenance aussi à un pays. Et maintenant, on voit que c'est quand même assez élargi, en fait. Parce que, voilà, il y a la mondialisation qui est quand même passée par là depuis un moment. Donc,
c'est
quand même élargi.
On pourrait revenir un petit peu sur l'histoire même de l'éducation. À l'époque de Platon, l'éducation était plutôt orale. Hein. Après, elle s'est développée à l'écrit. On était sur une véritable ouais. éducation citoyenne.
Avec les agora, tu veux dire ?
Exactement, hein, exactement. Le but était de créer des vrais citoyens. Le devoir d'éducation, c'était la plaidotrophia, me semble-t-il. Par contre, à cette époque-là, les garçons avaient droit à l'éducation, les petites filles apprenaient à tricoter la laine, hein,
oui.
à cette époque-là.
Après, c'était assez genré.
C'était genré. On avait le maître, l'élève, l'esclave aussi. Les esclaves étaient les pédagogues à l'époque des Grecs. Hein. Le pédagogue, ouais. il portait le paquetage de l'élève, il accompagnait l'élève à l'école et il assurait sa sécurité. Voilà la naissance du mot pédagogue. Après, on a eu les Romains qui ont voulu faire des écoles un peu plus élitistes. Napoléon s'en est mêlé. Hein, avec la réforme des écoles, il a voulu créer des centrales. Et puis après, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Les petites écoles primaires étaient confiées aux communes. Et les centrales, c'était pour fabriquer des cadres. Hein, Napoléon voulait former des oui. cadres. Des cadres pour la nation, avec les lycées. C'est à Napoléon qu'on doit les lycées. Et puis, écoutez, après, je crois que c'est autour de 1802 où les centrales, ça a été terminé et on est revenu à l'État qui a repris la main sur les lycées, les collèges, les lycées, les études supérieures. Et à partir de là, d'ailleurs, là aussi, en 1802, non, excusez-moi, en 1888, c'est Jules Ferry. Qu'est-ce qu'il a fait, Jules Ferry, Lucille ?
Oh, Jules Ferry, il a fait en sorte que chaque enfant puisse bénéficier d'une instruction.
Exactement, l'école laïque, gratuite et laïque. On le doit à Jules Ferry, un nom qui doit marquer les esprits, qui doit marquer l'histoire. Il faut s'en souvenir. Donc, sur ces petits rappels de mémoire, on va se faire une petite pause musicale et tout de suite derrière, on parle du projet de l'école passerelle.
We don't need no thought control.
Paul Calade.
Bonjour tout le monde, nous revoilà en direct de Calade Ma Radio, 100.9 FM. Nous sommes dans l'émission Cavale Calade avec notre invitée Lucile Jourdan. Lucile Jourdan, es-tu toujours là ?
Bonsoir, je suis toujours là.
Alors, après cette pause musicale illustre avec les Pink Floyd, quand même.
Oui.
Hein, la petite note, on parle d'éducation, comment ne pas parler de Another Brick in the Wall, avec mon super anglais.
Exactement.
Donc, Lucile,
oui.
Nous t'avons convié à cette émission pour parler éducation, instruction, citoyenneté, inclusion, mm-hmm. harcèlement scolaire.
Oui.
Quel est le projet ?
Alors voilà le projet. Donc vous le savez, j'ai fait ma petite présentation avant. Je suis donc musicothérapeute, psychopédagogue, autrice, mais je suis aussi maman. Maman de 4 enfants maintenant, dont 2 qui ont subi des violences et du harcèlement à l'école. C'était une école privée. Et ça a été assez sanglant, je pense qu'on en a entendu parler, hein. C'était il y a 6 ans maintenant. Malheureusement, comme beaucoup de familles, nous avons dû retirer nos enfants de cet établissement. Parce que voilà, il fallait quand même les protéger et être là pour eux. Et donc, dans les familles, plusieurs ont pris la décision de remettre leurs enfants dans un autre établissement et d'autres ont choisi ouais. l'instruction en famille.
Oui.
Qui est un sujet qui est, je pense, essentiel en tout cas dans mon projet. C'est-à-dire que, en tant que famille, on peut se retrouver démunis lorsque nos enfants font face à des violences, qu'ils soient faits de la part d'adultes ou de la part d'enfants, que ce soit ouais. du harcèlement scolaire ou autre. Et on ne sait pas trop comment faire. C'est-à-dire que, bien sûr, ils vont aller voir des psychologues, bien oui. sûr, il va se passer plein de choses. Mais lorsque la porte de la maison se referme, on se retrouve avec nos enfants. Et on fait parfois le choix de l'instruction en famille pour essayer de les protéger et de remettre un cadre stable.
Parce que parfois, il peut se développer de la phobie scolaire. L'enfant n'a plus envie d'aller dans l'établissement. L'enfant peut même avoir peur
alors,
de développer des...
Oui, c'est ça, développer de la phobie scolaire. Mm-hmm. Alors, à différents niveaux, la peur de l'autre,
oui.
La peur de soi aussi, de ses propres réactions. Si un autre enfant ou un autre adulte renvoie une phrase, ou peut-être qui pourrait sembler anodine, mais qui ne l'est pas pour l'enfant, en fait.
Oui.
Il y a des grandes conséquences. En fonction de l'âge avec lequel il a aussi vécu ce genre de choses, et ben, ça peut être multiple, pluriel. En tout cas, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les enfants, parce que non. du coup, il faut qu'ils puissent retrouver confiance et estime en eux-mêmes. Et c'est compliqué pour les parents, parce qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui de groupe pour discuter de ça. Et souvent, le choix est fait donc de prendre les enfants en instruction en famille. Choix qui pouvait être fait assez aisément jusqu'à maintenant et qui est un peu plus compliqué aujourd'hui puisque maintenant on est passé sous un régime d'autorisation alors qu'avant c'était un régime déclaratif.
Oui.
Qui fait que c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut aussi prouver d'une certaine manière ce que les enfants vivent et compagnie pour
oui.
pouvoir les enlever de leur établissement. Et puis, il y a aussi une forme de retrait d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire que ça les enlève au niveau de la socialisation. Je pense que ça, c'est un très gros sujet avec l'instruction en famille, mais là n'est pas le
oui.
débat. Le problème, c'est que quand on a ce choix-là et qu'en plus, on a les bâtons dans les roues pour essayer de le faire pour que nos enfants ne puissent partir ne serait-ce que quelques mois, un an ou plus, si vraiment ils se sentent plus à l'aise de cette manière-là, c'est maintenant un choix qui devient difficile.
Encore faut-il pouvoir en tant que parent quand on n'est pas... Parce qu'il y a le côté où on travaille aussi, les parents travaillent, donc c'est...
Les parents travaillent, ça veut dire que du coup ça nécessite une déconstruction aussi
oui.
de toute la sphère familiale.
Oui,
c'est
exactement.
C'est ce qui s'est passé aussi pour nous, c'est-à-dire de revoir les plans qu'on avait mis en place
oui.
Pour notre propre famille, que d'autres parents ont fait, parce que voilà, nous ne sommes pas les seuls. Il a fallu savoir qui allait plus travailler ou faire des compromis avec sa propre activité professionnelle pour pouvoir s'occuper de l'instruction des enfants, en sachant que voilà, jusqu'à maintenant, c'est pas non plus soumis à un régime de diplôme. Maintenant, c'est bac plus 2. Bac pour pouvoir avoir le droit d'instruire ses propres enfants. Et puis après, on peut passer par des cours par correspondance et compagnie. Enfin voilà, il y a différentes formes, différents choix qui sont faits par les parents qui sont responsables légaux et responsables aussi du coup de l'instruction des enfants jusqu'à leurs 16 ans. Donc, en établissement scolaire public ou privé ou à la maison.
Oui.
Et c'est vrai que voilà, tout le monde, c'est pas que tout le monde ne peut pas le faire, c'est juste que c'est un choix qui peut être assez compliqué. Ça veut pas dire que tout le monde ne peut pas le faire.
Et c'est un choix de famille, tu l'as dit, qui implique tous les membres de la famille.
Exactement. Et un suivi particulier aussi des enfants, qui les soumet aussi à des contrôles, 1 à 2 contrôles par an de l'académie, ce qui est tout à fait normal, hein, bien sûr, avec inspecteur, psychologue, assistante sociale, parfois conseiller pédagogique, qui vont pouvoir essayer de voir le niveau et la progression des enfants au fil des ans.
Avec les visites médicales aussi, je pense. Hein. Ça aussi, c'est...
Alors oui, bien sûr, la visite médicale et puis la visite aussi sociale, à caractère social de la mairie tous les 2 ans.
D'accord.
Pour pouvoir voir que l'instruction est mise en place au sein de la famille et que les enfants apprennent dans des bonnes conditions, en fait, tout simplement.
Voilà. Donc, tu es partie d'un constat, d'un vécu, hein, parce que toi-même, tu l'as vécu.
Voilà.
Et la
voilà.
Margotine, alors ?
Alors, voilà. Je l'ai vécu à travers mes enfants, mais je l'ai aussi vécu enfant.
Oui.
Et puis, voilà, il y a eu cette idée de la margotine, de dire que les choses sont peut-être un peu plus compliquées, mais est-ce que ce ne serait pas le moment, justement, de développer des microstructures qui permettraient aux enfants de ne pas forcément sortir d'un établissement scolaire, mais tout simplement de rejoindre un autre établissement qui serait une école passerelle pour leur permettre de pouvoir se reconstruire, guérir, panser les blessures, essayer de retrouver un sens aussi à la vie pour certains, parce qu'on parle aussi de risques qui peuvent être dramatiques pour la vie de ces enfants.
Bien sûr, bien sûr.
Des risques psychologiques, voire de tentatives de suicide aussi. On parle d'un enfant sur 5 aujourd'hui. Hein, en 2021, c'était un enfant sur 10 qui, par exemple, était victime de harcèlement scolaire. Maintenant, c'est un enfant sur 5 depuis la dernière étude de l'association Marion la main tendue.
Oui.
En novembre 2023. Donc, ça devient vraiment très, très alarmant.
Donc, une école passerelle qui serait adressée aux primaires, on est sur quoi
Non, ce serait une école passerelle pour les enfants de 2 à 16 ans.
De 2 à 16 ans, d'accord.
Exactement. Une microstructure qui accueillerait 25 enfants, pas plus, parce qu'il faut pouvoir aussi recréer du lien et développer les différentes interactions et différents piliers aussi inclusifs qui seront dans cette école, à savoir l'humanisme, l'éthique et la coopération. À travers un projet particulier, qui est un projet à la fois pour les temps scolaires et pour l'éducation inspirée des pays scandinaves, mais également aussi avec sa propre pédagogie, un projet d'épanouissement par la musique et par l'art. Donc l'idée, ce serait de pouvoir découper les journées, les semaines des enfants à travers, bien sûr, un apprentissage des compétences et des connaissances formelles, mais aussi apprendre à travers l'art à pouvoir refaire confiance à l'autre, à gagner en estime de soi et à avancer dans sa scolarité. Parce que voilà, un autre point important pour cette école, c'est aussi le fait que ces enfants puissent avoir un but aussi professionnel
bien
et
sûr.
Se développer, rêver à nouveau aussi, parce que quand on a subi des brimades et des moqueries et autres, et ben voilà, on peut avoir des difficultés à rêver. Donc l'idée, c'est de leur permettre, à travers la margotine, de rêver à nouveau et de se réaliser au sein de la société et de construire à nouveau aussi des valeurs humaines et citoyennes.
Alors, le projet est donc, on n'en est plus à l'étape du projet, il est monté, il est abouti.
Oui.
Où en sommes-nous ?
Alors, le dossier pédagogique est réalisé. Je l'ai envoyé au président de la communauté de communes Saône Beaujolais et au délégué au service de la communauté de communes Saône Beaujolais.
Oui.
Voilà, à l'heure actuelle, j'attends aussi les réponses.
D'accord.
Et il y a donc le site internet qui est déjà présent, la page Facebook et la page Instagram.
Comment est-ce qu'on les trouve sur Facebook qu'est-ce qu'il faut taper
sur Facebook, vous tapez École Passerelle, la Margotine en Beaujolais. Et à travers Facebook, vous trouverez le site internet, même la page Instagram, où vous pourrez suivre les pérégrinations, la progression de ce projet, de cette création d'école, avec le souhait d'ouvrir en septembre 2024.
École Passerelle, la Margotine en Beaujolais.
Exactement.
D'accord. Voilà. Tu as déjà un projet de territoire qui sera implanté dans le Beaujolais. Et Dieu sait que nos écoles rurales ont besoin de soutien et ont besoin de dynamisme, hein, puisque j'entends beaucoup parler en ce moment du manque d'AVS dans les écoles rurales, de l'inclusion dans le milieu rural, dans les petites écoles rurales. C'est compliqué.
Des fermetures de classe.
Exactement, exactement. Donc là, nous souhaitons une rentrée pour septembre 2024. Qu'est-ce qu'il te faut, Lucille ? Profites-en, nous sommes à la radio.
Alors, il me faut soit un terrain de 1000 m² pour pouvoir poser deux yourtes aux normes ERP qui permettraient de faire les deux classes, la classe maternelle et la classe fondamentale, ou alors un bâtiment de 100 à 150 m² pour pouvoir installer cette école.
Voilà. Avec toutes les normes de sécurité pour pouvoir accueillir du public.
Avec toutes les normes de sécurité, nous sommes en janvier, mais c'est, je pense, quand même réalisable, parce qu'il peut y avoir du monde. Et puis, un directeur aussi pour cette école, un directeur musicien.
D'accord. Tu t'es rapproché un petit peu déjà des structures intergénérationnelles éventuellement. J'imagine que tu as dû peut-être aussi présenter ton dossier au département, au MDR, au...
Parce que c'est en cours, c'est en cours.
Très bien, très bien. Très bien.
Et donc l'école passerelle, je voulais insister là-dessus, passerelle, parce que ce n'est pas une école qui fait contre le système déjà en place, mais qui a envie et qui a pour vocation de travailler avec les établissements scolaires publics.
Le but étant qu'après les enfants puissent rejoindre un parcours scolaire classique et désiré pour se réaliser ensuite.
C'est ça, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé, mais qu'en moins, ils puissent avoir bénéficié d'un temps de repos, d'écoute aussi de leurs besoins et d'avoir mis en place leur projet en fait, de vie et d'épanouissement. École passerelle.
J'entends le mot passerelle est important. Il ne s'agit pas de les sortir du cursus scolaire, mais le temps d'une respiration, le temps d'un souffle. Souffler, voilà.
Exactement. Ou pour plus longtemps s'ils en ont envie. Voilà.
Selon. Et du coup, en termes de temps, justement, ça pas de combien de temps est-ce qu'un enfant. Je sais que ça dépend un petit peu de l'enfant et de ses besoins. Mais comment est-ce que tu vois cette classe de 25 élèves ? Sur combien de temps est-ce que tu...
Alors, on a une classe pour les 2-6 ans qui serait de 10 enfants et une classe à partir de 7 ans jusqu'à 16 ans de 15 enfants avec un enseignant pour chacune des classes. En sachant qu'il y aurait un niveau intermédiaire pour les enfants qui seraient déjà entrés dans la lecture. Ça, c'est un petit peu la popote interne de l'école. Par contre, pour le temps scolaire, il y a les mêmes horaires que pour une autre école. Mm-hmm. Simplement, les après-midi, à partir de 7 ans, seraient consacrés à la pratique d'un instrument, à la pratique vocale et à la pratique de percussion pour pouvoir retrouver possession aussi de son corps et développer les interactions sociales avec les autres.
L'expression corporelle.
Exactement.
Et tout à l'heure, tu faisais référence à l'éducation scandinave. Et je crois que c'est quelque chose associé au mouvement, à l'intention. C'est très important, je crois.
Exactement.
Eh bien, écoute, Cécile, est-ce que tu as d'autres informations à transmettre à nos auditeurs ?
Eh bien, n'hésitez pas à me contacter à travers la page Facebook, peut-être dans un premier temps, ou à travers le site web que vous trouverez tout de suite sur la page Facebook. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. En attendant, il y a déjà un questionnaire d'études qui est mis en place sur le site pour toutes les familles qui sont intéressées pour une éventuelle participation.
Des professionnels qui souhaiteraient apporter leur pierre à l'édifice, qui souhaiteraient
rejoindre. Des professionnels, parce que du coup, je suis à la recherche d'experts dans leur domaine, notamment en neurosciences. En musicothérapie, c'est déjà fait, mais en neurosciences et dans sciences de l'éducation, pour mettre en place un comité d'experts pour évaluer, en fait, les bienfaits d'une école de ce type, que ce serait une école qui n'existe pas ailleurs, mais pour pouvoir comprendre en fait le développement de l'enfant et les bienfaits de cette pédagogie sur cette tranche d'âge. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi.
On répète aux éditeurs une dernière fois, s'il te plaît, Lucille, le nom de ton site et de ta page Facebook.
École Passerelle La Margotine en Beaujolais.
Maintenant, vous savez tout.
Voilà.
Le projet est entre les mains de Cécile et on a besoin de vous pour qu'il soit porté. Vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice. Et en attendant, eh ben écoutez, on va vous souhaiter à tous. Lucille, je te remercie pour ta présence à cette émission.
Ben merci beaucoup à toi pour ton invitation.
Et on vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi, une excellente soirée. À très bientôt sur les bonnes ondes de Calade, ma radio.
Au revoir.
Au revoir.